VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Il est midi à Bangui. Bonjour à tous. Bujumbura pose des conditions à sa participation aux négociations sur la crise burundaise prévue à Arusha, en Tanzanie, au début du mois de mai. Le gouvernement burundais souhaite être consulté, notamment sur les participants à ce dialogue, après l'annonce par les médiateurs internationaux d'une reprise des discussions à partir de lundi à Arusha. Bujumbura attend en outre une invitation officielle, sans quoi le gouvernement du Burundi considère nécessairement que ce qui se dit est une machination ou une rumeur selon le porte-parole. Toujours au Burundi, une année vient de s'écouler après la candidature du président Pierre Nkurunziza et le début des manifestations. Plus de 500 personnes ont été tuées et plus de 270 000 personnes sont réfugiées dans de nombreux pays limitrophes. Mais dans les quartiers contestataires, la vie reprend petit à petit. Notre correspondant Christophe Nkurunziza s'est rendu dans les quartiers de Chibitoke et Mutakura, au nord de Bujumbura.
Mutakura, 13e avenue, des habitations restent fermées tandis que des boutiques ont ouvert. Très peu de personnes sont visibles. Les rares passants ne veulent pas parler aux journalistes. Ils ont peur de relater ce qu'ils ont vécu et vu il y a une année. Mais l'artère principale qui divise les quartiers Chibitoke et Mutakura brouille de voitures et des taxis communément appelés tuk-tuk. Mais cette jeune fille que nous avons rencontrée, la vingtaine, affirme que dès 18h, elle ferme automatiquement sa maison. Cette femme remercie le bon Dieu d'être toujours vivante. Elle affirme que la situation s'améliore. Au moment des manifestations, dit-elle, elle avait même peur d'envoyer les enfants à la boutique d'à côté car elle n'était pas sûre qu'ils allaient rentrer. Aujourd'hui, elle remercie le bon Dieu, mais elle affirme que les gens refusent de venir habiter les maisons gratuitement. Mais des gens commencent à rentrer petit à petit, même s'ils ont peur, indique-t-elle. Beaucoup de Burundais placent l'espoir dans les futures négociations qui commencent au début du mois de mai à Arusha, en Tanzanie. Mais le début de ce dialogue ou négociation coïncide avec l'ouverture par la Cour pénale internationale d'un examen préliminaire sur les violences au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Soudan du Sud, les Nations Unies ont réclamé hier la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale après le retour à Juba de Riek Machar qui est désormais investi vice-président John Lydon.
Le Conseil de sécurité appelle toutes les parties de former rapidement le gouvernement de transition. Le représentant adjoint sud-soudanais Joseph Moun Malok a répondu que ce gouvernement d'union pourrait être formé dans un jour ou deux après des consultations avec les différentes parties. L'ambassadrice américaine Samantha Power a souligné l'importance de lutter contre l'impunité car, selon elle, il ne peut y avoir de paix sans justice. Hervé Latsou, patron des opérations de maintien de la paix, estime que le retour de Riek Machar à Juba devrait permettre de commencer la transition. Il a aussi averti que la situation sécuritaire reste précaire et la situation humanitaire s'est aggravée en ampleur et en urgence. Les 15 pays membres du Conseil exigent le respect des droits humanitaires et que les parties facilitent la livraison de l'aide à la population meurtrie et accordent la liberté de mouvement à la mission de l'ONU sur place.
À Bangui, la MINUSCA et le gouvernement centrafricain lancent des opérations d'identification socio-professionnelle des ex-combattants. Au moins 3000 ex-combattants de la capitale seront identifiés dans le cadre du processus de désarmement. Les opérations se déroulent depuis ce matin à Boirabé, dans le 4e arrondissement, où 1500 ex-anti-Balaka devront être recensés. Freeman Tsipila à Bangui.
À la différence des activités du pré-DDR réalisées dans certaines régions du pays, les 3000 combattants attendus à l'issue de cette identification bénéficieront du projet Réduction des violences communautaires. 1500 seront recensés parmi les anti-Balaka et 1500 autres parmi les groupes d'autodéfense de PK5. Pour Diane Cornet, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, il s'agit d'un projet très important pour l'avenir des combattants et de leur pays, la République centrafricaine. Satisfaction des membres des groupes armés, estimant que ce nouveau projet pourrait contribuer à la cohésion sociale et changer leur vie en attendant le processus DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, proprement dit. L'opération lancée aujourd'hui dans le 4e arrondissement devra se poursuivre dans le 3e arrondissement et dans les zones périphériques de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'organisation non gouvernementale Freedom House, basée ici à Washington, D.C., publie ce mercredi son rapport annuel sur l'état des libertés dans le monde en 2016. Le rapport en question met notamment un accent sur le respect des libertés politiques et civiles dans près de 210 pays et territoires dans le monde en 2015. Freedom House note, pour ce qui est de l'Afrique, une nette amélioration dans le domaine avec néanmoins une exception, le Burundi, où la presse reste toujours en danger. John Lydon s'est entretenu avec Sarah Repoussi. Elle est la directrice du projet Freedom House pour la presse.
Au niveau global, nous avons trouvé une manipulation de la presse pour des raisons politiques, des acteurs étatiques et non étatiques aussi, et en Afrique aussi. Alors, il y a surtout des problèmes avec la pression sur les journalistes par les acteurs étatiques et aussi beaucoup de violence, surtout en Afrique cette année.
Alors, quels sont les pays africains où la liberté de la presse est vraiment le plus en danger?
Cette année, surtout au Burundi, nous avons beaucoup de concerns, mais aussi il y a des problèmes en Afrique de l'Est et du Sud, au Ouganda, au Rwanda, au Congo, la République démocratique du Congo.
Parlant du cas spécifique du Burundi, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez observé et qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, le président du Burundi a changé les termes de son présidence et il y avait sa réélection. Et après cela, nous avons vu beaucoup de protestations, beaucoup de manifestations et beaucoup de violence. Et nous avons vu, en effet, surtout sur les journalistes, de cette violence et des changements. Le gouvernement a fermé toutes les stations radio qui avaient un peu d'indépendance du gouvernement. Et nous avons vu 50 journalistes qui ont quitté le pays. Aussi, plus de violence à cause de la violence, des menaces aux journalistes. Nous avons vu un croissement de censement quand les journalistes, ils ont censé ce qu'ils écrivent.
Alors, est-ce que vous pensez que la presse burundaise va continuer à jouer son rôle dans la promotion de la démocratie dans ce pays au regard de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire les menaces, les fermetures de radio, les censures? Est-ce que la presse burundaise sera assez forte pour continuer?
Maintenant, j'ai peur que ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de journalistes maintenant qui restent dans le pays et qui peuvent faire son travail. Pour avoir plus de démocratie au Burundi, il faut avoir de la protection pour les journalistes, de la protection pour les journalistes qui veulent retourner au pays et aussi des efforts pour reconstruire les bureaux de médias qui sont fermés.
Alors, à votre avis, qu'y a-t-il lieu de faire pour qu'on ait une presse forte et indépendante, aussi bien au Burundi que dans la plupart des pays africains?
Au début, il faut un cessement, une termination de violence et une termination de menaces contre les journalistes.
Sarah Repouchi, la directrice du projet Freedom House pour la presse.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le parquet fédéral belge a annoncé aujourd'hui la remise à la France de Salah Abdeslam, suspect clé des attentats de Paris et lié aux auteurs de ceux de Bruxelles. Salah Abdeslam avait été arrêté à Molenbeek, une commune de Bruxelles, le 18 mars dernier, après 4 mois de cavale depuis les attaques du 13 novembre de Paris. Le milliardaire Donald Trump a triomphé hier dans les 5 primaires républicaines organisées sur la côte est américaine. Pour l'homme d'affaires, l'important n'est pas seulement de gagner les primaires restantes. Il lui faudra s'imposer avec un très fort pourcentage dans les 10 derniers scrutins afin d'atteindre les 1237 délégués et de ravir l'investiture de façon incontestable avant la convention de Cleveland au mois de juillet. Chez les démocrates, Hillary Clinton a empoché les grands États du Maryland et de la Pennsylvanie, ainsi que le Connecticut et le Delaware, Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, n'a gagné que dans le petit Rhode Island. Et puis, pour terminer, la Corée du Nord a annoncé officiellement aujourd'hui l'ouverture le 6 mai d'un congrès de son parti unique au pouvoir, le premier en près de 40 ans, dont de nombreux observateurs craignent qu'il ne soit précédé par un cinquième essai nucléaire. Aucune précision n'a été fournie sur son déroulement, mais il sera scruté de très près pour déceler d'éventuels changements de ligne politique à Pyongyang. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francis. Pour ma part, bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.